C'est la chronique de psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
Alors, votre sujet aujourd'hui, perdre son statut social, une petite ou une grande noirceur, grande question. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce sujet?
Bien, ce qui m'a inspiré, c'est un livre que j'ai lu récemment qui s'intitule « Rue Duplessis, ma petite noirceur », qui est écrit par le sociologue et animateur de radio Jean-Philippe Plot de Ville-Connaître.
Oui.
C'est un récit autobiographique original qui offre vraiment un regard complexe sur la société québécoise parce qu'il manie une critique sociale, il utilise aussi un vocabulaire sociologique et son vécu personnel. Donc, tout ça s'entremêle. Puis c'est vraiment... puis si vous voulez, Hélène, j'ai mis un petit extrait, si ça vous tente de lire pour les auditeurs, auditrices, je vous laisse aller.
Parfait. Un extrait donc du livre « Rue Duplessis ». J'ai grandi à Drummondville, sur la rue Duplessis, dans une famille ouvrière régie par la peur, dont les principales manifestations étaient l'hypocondrie, la xénophobie et l'homophobie. Je viens d'un milieu populaire, mais les circonstances de ma vie m'ont permis de poursuivre des études universitaires en sociologie et de devenir animateur de radio. Je suis ce qu'on appelle un transfuge de classe.
Donc, cet extrait nous conduit à notre première notion qu'on pourrait aborder, c'est le statut socio-économique qui est similaire au statut social. On entend souvent parler de ça.
Mm-hmm.
Donc, ça reflète la position sociale et économique, souvent les deux vont ensemble, d'un individu qui tient compte des caractéristiques comme le revenu, l'éducation, le statut professionnel. Jean-Philippe Plot, donc l'auteur, il est issu d'une famille qui est peu scolarisée, qui a des faibles revenus, puis ça rappelle les défis liés au niveau socio-économique, notamment sur le plan de la santé, le bien-être, l'accès aux ressources. Ça m'a poussé à lire un article scientifique ou à lire quelques articles scientifiques à ce sujet, dont un qui a marqué la psychologie sociale en 2024, donc cette année, ben, l'année dernière, dans la revue Social, Psychological and Personality Science.
OK.
Oui. Puis, les recherches en psychologie sociale, souvent, juste pour illustrer comment on évalue le statut social, c'est qu'on présente une échelle, donc une vraie échelle, un dessin là, d'une échelle. Donc, les participants aux études doivent indiquer où ils se trouvent dans cette échelle. Donc, est-ce que c'est dans le bas, dans le milieu de l'échelle ou dans le haut par rapport aux autres personnes autour d'eux? Donc, grâce à plusieurs études universitaires son travail d'animateur, donc Jean-Philippe Plot a pu progresser vers une classe sociale qui est plus aisée. Donc, il a fait un
il a monté dans l'échelle.
Exact, il a monté dans l'échelle vers le haut. Donc, cette transition d'un milieu populaire vers un milieu plus privilégié illustre une seconde notion qui est la mobilité sociale.
Bon, la mobilité sociale, c'est quoi au juste?
Bien, dans Rue Duplessis, Jean-Philippe Plot parle d'une immigration de l'intérieur. Ça veut dire...
Ça fait penser à la chanson d'Offenbach, l'immigré de l'intérieur. Aïe, tu me fais mal.
Mais ah, là, on est ailleurs. Chose. Ouais, oui, mais oui. Là, faudrait que j'aille trop loin dans mes souvenirs. Là. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par l'immigration de l'intérieur? C'est un peu comme un immigrant. Donc, l'auteur, il aurait quitté sa classe sociale et il s'est déraciné de sa culture de classe, de ses attitudes, de ses comportements qui sont associés classe sociale.
C'est vraiment un déracinement.
C'est comme un déracinement. Donc, en psychologie, la mobilité sociale repose sur l'idée qu'on vit dans une société qui désire changer les conditions associées. Les individus là, qui vivent dans cette société veulent changer leurs conditions associées à leur appartenance de groupe. Donc, dans ce cas-ci, de classe, de catégorie sociale. Donc, ça veut dire que grâce à leurs talents, leurs efforts, le travail acharné ou parfois même la chance, bien, on peut changer de statut et aller vers le haut. Donc, cette idée va de pair avec le concept de la méritocratie, c'est-à-dire que si on y met les efforts nécessaires, on peut accéder, par exemple, à un meilleur emploi.
On va le mériter, en tout cas.
On va le mériter. Mais j'ai lu aussi un éditorial de Marie-France Basso récemment dans la presse en 2024 aussi, que la responsabilité n'est pas uniquement individuelle. Il y a eu quand même un mouvement collectif au Québec il y a quelques décennies. Par exemple, le fait que la scolarisation est gratuite ou presque gratuite, par exemple dans les études universitaires, ou bien l'obligation d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, bien, ce sont des décisions collectives qui font en sorte que plusieurs personnes, des centaines, des milliers de personnes ont eu ce mouvement vers le haut aussi. Mm-hmm.
Et puis Roxane, c'est quoi le lien avec votre sujet, la perte de statut social?
Bien, le statut social fait partie d'une structure qu'on nomme la hiérarchie sociale. Donc, puis il y a deux options possibles. C'est soit qu'on va vers le haut, soit qu'on va vers le bas. Donc, on bouge dans un sens ou dans un autre.
On monte ou on descend.
Oui, exact. On monte ou on descend de l'échelle. Donc, les chercheurs de l'article que je vous parlais, qui s'appelle Weiss et Bloch, je suis certaine que je le dis très mal.
Mais donc, moi, je dirais, Mathieu est allé en Allemagne. Ouais. Il connaît bien le Weiss et W-E-I-S-S et Bloch, B-L-O-T-R-E-M-A-C-H-L. C'est Bloch qu'il faut dire?
Bloch.
Bloch.
Parfait, wow, ouais, merci.
C'est Bloch.
J'aurais dû demander avant, j'en suis vraiment profondément désolée.
Oh non, non, absolument pas, hein, franchement.
Donc, ils définissent la perte de statut social comme une expérience personnelle dans laquelle la position ou le rang de la personne ou de l'individu au sein du groupe ou de la société se déprécie, on perd de notre valeur. Donc, ça, il peut s'agir d'une perte de respect, de prestige ou de considération. La perte de statut social, ça peut prendre la forme d'une perte qu'on pourrait considérer comme objective. Par exemple, si on est dans un poste prestigieux au travail, mais qu'on le perd, ou bien aussi, ça peut être subjectif. Ça peut être une impression personnelle. On pourrait se sentir à un moment moins respecté. Donc, ils donnent dans leur exemple, dans leur article, un exemple d'un adolescent qui retournerait à l'école après les vacances d'été, puis il se sentirait moins populaire qu'avant d'aller en vacances, ou bien un membre d'une famille qui pourrait avoir l'impression d'être moins respecté par le reste de sa famille, par exemple s'il sent qu'il perd son rôle de chef de famille. Ce qui est intéressant dans la définition des chercheurs, c'est l'importance qui est accordée à l'individu. Donc, parfois, un même événement ou une même perte, si on peut dire, peut mener à différentes impressions ou sentiments. Donc, dans un cas, on pourrait sentir qu'on perd notre statut et dans un autre cas, on sent qu'on le perd moins.
Alors, c'est ça, ça dépend, j'imagine, de ce qu'on est, de la confiance qu'on a en soi. Il y a plein d'éléments, mais là, vous parlez de perte de statut social, mais Jean-Philippe Plot, lui, vient d'une classe sociale pauvre.
Oui.
Alors, entre la pauvreté et la perte de statut social, qu'est-ce qui a le plus d'incidence sur une personne?
Bien, ce que la recherche montre, entre autres cet article, ce qu'il montre, c'est que c'est vraiment la perte du statut social qui est pire. Ça ne veut pas dire que la pauvreté, puis le fait qu'on gagne en statut, n'amène pas d'émotions, mm-hmm. puis de sentiments qui peuvent nuire à notre bien-être. Mais il reste que c'est vraiment quand on perd en statut social qu'il y a des effets plus difficiles pour l'individu. Et aussi, on parle souvent dans notre société en ce moment de la culture d'annulation.
Oui.
Donc, parce qu'on peut s'imaginer que certaines personnes ont peur que ça leur arrive justement pour perdre de leur prestige, de leur statut. Donc, ça provoque un embarras, une humiliation publique d'une personne. Donc, parce qu'ils pourraient se faire rejeter ou boycotter. Donc, par exemple, s'il y a une vidéo qui se ressurgit du passé. Et les gens peuvent vivre beaucoup d'angoisse, juste le fait d'avoir cette possibilité d'être cancellé, si mm-hmm, on veut dire. Mm-hmm. Donc, tout ça pour dire que la perte du statut social peut avoir des conséquences négatives, même des fois son anticipation.
Oui. Alors, ça fait réfléchir quand même. On se dit, on accorde beaucoup d'importance sur ce que la personne fait et non sur ce que la personne est. Est-ce qu'il existe des conseils, Roxane, pour faire face à une perte de statut social?
Oui, Hélène, conseil, c'est quand même un grand mot, mais les chercheurs ont identifié deux facteurs qui peuvent aider. En fait, c'est deux perceptions qu'on a en lien avec le statut puis la situation de notre vie. La première perception, c'est la possibilité de changer de statut. Et la deuxième, c'est d'avoir une vision plus optimiste. Donc, on va revenir à la première, qui est les chercheurs ont constaté que les personnes qui pensent que la hiérarchie sociale est flexible et que leur statut peut changer. Donc, si on a perdu un statut, mais qu'on pense que ça peut revenir, notre statut qui est plus élevé, ben les effets vont être moins négatifs. Parce qu'on a un sentiment de contrôle, puis on peut croire en nos capacités pour retourner vers ce statut qu'on avait ou qu'on estimait important. Puis la deuxième perception, c'est d'avoir une vision optimiste par rapport à ses possibilités d'aller vers un statut plus élevé. Ça rappelle l'idée que d'entretenir des pensées qui sont positives peut contribuer à la réussite et à un développement du soi qui est positif aussi.
Think donc, positif, comme disait là.
Oui, mais tu sais, ça va aussi avec les efforts, avec... Oui. Donc, si on va se mettre dans l'action, justement, pour accéder à ces buts qui, somme toute, si on est optimiste, seraient réalistes aussi et atteignables. Ah oui, puis les chercheurs ont aussi démontré que l'effet était plus prononcé et plus fort pour les jeunes adultes. En comparaison avec les adultes qui sont plus ouais. âgés.
Ouais. C'est une question de maturité.
Oui, mais ben, les recherches montrent souvent que les jeunes sont de nature plus optimistes aussi. Peut-être que ça vient jouer. Ils ont peut-être eu moins d'échecs dans leur vie mm-hmm. que les adultes. Ils ont peut-être un... Je ne sais pas, mais là, il faudrait faire peut-être d'autres recherches par rapport à ça. Puis, en terminant, Hélène, j'ai sorti une citation qui n'est pas 100% reliée à ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais c'est juste pour amener une petite réflexion aux auditeurs, auditrices. Donc, c'est Aristote en philosophie. « La plus grande des injustices est de traiter également des choses qui sont inégales. » Donc, voilà.
Répétez ça, s'il vous plaît. « La plus grande injustice... »
est de traiter également des choses qui sont inégales.
Ah oui. Merci, ouais. Aristote. Merci aussi, Roxane de la Sablonnière. Je rappelle que vous êtes professeure. Je ne vous ai pas présenté en bonne et due forme au début. J'étais trop énervée et contente de vous revoir en ce début d'année. Alors, Roxane, vous êtes professeure titulaire au département de psychologie à l'Université de Montréal. Aussi cofondatrice du projet Intercom, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être, responsable scientifique de l'axe individuel du communauté bien-être du réseau de prévention des crises en santé. C'est bien ça?
Oui, oui.
OK.
Je m'en vais juste à vous écouter, là.
Tout un statut social. Et puis aussi, je voulais dire que la chronique avait été préparée avec Iliane Mirandette, qui est étudiante au baccalauréat à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Roxane.
Merci, au revoir.
On se retrouve dans 3 semaines, 1 mois. À bientôt.